mis en musique la chanson du Mal-aimé de Guillaume Apollinaire. J'ai mis un an à écrire ça. Et comme je ne savais pas comment me faire jouer, parce qu'il y avait un grand orchestre symphonique, je connaissais M. Gilson, qui était un poète, qui était aussi un fonctionnaire. Et je suis allé le voir, il était directeur des programmes, c'était un monsieur très affable, très gentil. Je suis allé le voir, et il m'a dit, vous savez, je ne peux pas prendre ça sur moi, nous allons faire descendre le comité. Alors il a fait descendre un vieux monsieur, qui était un ancien altiste dans un quatuor perdu, je ne sais où. Et ce monsieur est arrivé, a dit, oui, d'accord, je suis le comité. Je lui ai dit, qu'est-ce que c'est que le comité? Il m'a dit, monsieur, le comité, c'est la musique. Alors je me suis levé, j'ai quitté Gilson, et j'ai dit, je rejoins Apollinaire, qui n'a pas voulu monter. Et d'ailleurs, 6 mois après, on m'a rendu ma musique avec des qui n'avait pas été lue parce que méchamment j'avais collé des pages, n'est-ce pas, avec du scotch. Alors, n'avait pas été lue. Alors, on m'a rendu cette musique et je pleurais dans la rue parce que j'estimais que c'était mauvais. Vous comprenez, je croyais que le comité de la musique était vraiment la musique. Et alors, quand je suis rentré chez moi, j'ai vu qu'on n'avait pas lu la musique. Bon, tant pis. J'étais dans une maison où je chantais des chansons qui s'appelaient La Maison Odéon. Et je devais renouveler le contrat. Et au lieu d'avoir de l'argent pour renouveler le contrat, j'ai dit, enregistrez-moi cette musique. J'ai dit, et enregistrez-moi cette musique sous ma direction avec l'Orchestre National de la Radio Française. Ça s'est fait en 57. Eh bien, vous me croirez, si vous voulez, la chanson du Mal-aimé, même cette année, où il y a eu le cinquantenaire de la mort d'Apollinaire, où il y a eu toute une journée consacrée à Apollinaire, depuis 10 ans, on n'a jamais passé la chanson du Mal-aimé de Guillaume Apollinaire mise en musique par moi. Alors ça doit être très mauvais. J'ai de la voix. Et s'il n'y avait pas de voix, je n'écrirais pas de chanson. Et d'avant tout, je suis un chanteur. C'est merveilleux d'avoir de la voix, vous savez, pour envoyer ça dans la tête des gens. C'est extraordinaire. Vous voyez, un type qui fait un récital de poésie dans un théâtre, c'est pas vrai, c'est pas possible ça. Pourquoi? Parce qu'il manque la musique, c'est tout. La musique, c'est une putain de véhicule, ouais. C'est une charrette admirable. Moi, ce que j'ai fait, je l'ai fait, je ne renie pas, bon. Le mot renier, ça n'est pas le mot qu'il faut. Je ne regarde pas ce que j'ai fait, parce que ce que j'ai fait, eh bien, ne se regarde pas, ça s'écoute. Vous savez, ça le privilège de la musique maintenant, et de la chanson. Les poètes ne sont que lus, ils sont peu lus parce que les gens ne sont pas habitués à aller acheter des plaquettes de poésie. Et les gens comme moi, ils sont forcément entendus, même s'ils ne comprennent pas, parce qu'il y a la musique qui va les violer chez eux, quoi. Évidemment, c'est une situation privilégiée.
Jacqueline Valois, vous avez connu Léo bien avant moi, en tout cas. Et justement, je voulais savoir quelles étaient, et d'une, vos impressions, et puis comment vous l'avez connu, en fait.
Eh bien, je l'ai connu grâce à Francis Claude, avec qui je faisais en 1946 des émissions de radio. Et j'ai connu Léo au moment où il est revenu de Monte-Carlo et où il a commencé à chercher du travail, où il logeait dans une toute petite chambre rue des Saints-Pères, où il était miséreux. C'est ça, c'est toute sa gloire qui est... C'est merveilleux pour lui, d'ailleurs. Parce que ce sont les souvenirs de... La misère, c'est autre chose. Il voyait ça autrement. Et Francis Claude a ouvert le Quad Libet, rue Saint-Thomas d'Aquin. Et il a fait débuter Léo dans ce petit boyau, cette petite cave qui était un petit boyau, avec un petit piano droit, où Léo a commencé à chanter, où Léo a étonné tout le public qui venait là. Enfin, tout le public, c'était petit. Il y a peut-être, je ne sais pas, 50 places, et encore, très serré sur les tabourets. Et Léo a été tout de suite... plébiscité et a commencé à faire des chansons, à écrire des chansons. Il en a écrit plusieurs d'ailleurs avec Francis Claude. Il a écrit En dehors de l'île Saint-Louis. Ils ont écrit ensemble La vie d'artiste. Et puis après, j'ai connu Léo aux Assassins, ce petit restaurant où il jouait et chantait pour pouvoir... Il était nourri le soir.
Je mangeais à midi dans le restaurant qu'on appelle maintenant le restaurant des Assassins. Parce que tout juste avant la guerre, enfin, quand j'étais étudiant, à deux reprises différentes, il y avait un jour un client qui était rentré dans ce restaurant et qui avait pris la tête d'un dîneur comme ça, et puis il avait tranché comme ça, avec un rasoir, 2 fois. Et j'ai dit à ce taulier qui s'appelait Jacques, je lui ai dit, écoute, tu devrais appeler ton restaurant Les Assassins. On était un peu en famille. Et le soir, il avait loué un petit piano droit, et il me disait, Léo, écoute, après, connais... Et nous partagions ça entre nous. Enfin, ça, on vivotait, quoi. C'est une époque où on était vachement exploités. Quand j'étais quelque part, les gens venaient m'entendre. Surtout quand j'étais à l'Arlequin, il y a une femme de ménage, quoi. Enfin, un peu plus, comment. Enfin, c'était horrible. C'était l'époque où les tauliers de Saint-Jean-des-Prés ont fait beaucoup d'argent et où ils exploitaient les artistes.
Bien sûr qu'on a fait des bouffes, on a rigolé, on a bu du vin rouge, enfin c'était un joyeux vivant aussi, hein, un rigolo. Souvent il racontait des histoires drôles, Léo, mais il avait un très sale caractère souvent aussi, oh là là. Quand ça lui plaisait pas, même en chantant, un jour au Quai des Bêtes, il y avait un client qui n'avait pas l'air d'accord avec ce qu'il chantait, et qui parlait un tout petit peu, mais vraiment comme ça, tout doucement. Léo a plaqué un accord sur le piano, droit qu'il avait, le tout petit piano. Il a hurlé, il a dit au début, sortons, je te casse la gueule. Ça, c'était Léo. Parce que ce monsieur avait osé parler un tout petit peu. Et il débutait. À ce moment-là, il n'était pas connu du tout. Mais c'était Léo Ferré, ça. Voilà. Il ne se laissait pas faire. Il a bien fait, d'ailleurs. Je suis tout à fait d'accord. On respecte l'artiste. Voilà. Moi, c'est l'homme que j'aimais. Voilà. L'humain, tel qu'il était. Alors, qu'il soit anarchiste, qu'il soit de droite, de gauche, du milieu, ça m'était égal. J'aimais lui, l'humain, l'homme. C'est l'homme. Voilà. C'est ça que j'aimais en Léo.
J'étais une espèce de type, une espèce d'oiseau de malheur, à mon piano. Et puis je chantais en m'accompagnant, donc je me servais de ma gueule, qui est expressive, mais souvent trop. Et puis je faisais des grimaces. Alors, c'est Nosferatu le vampire. C'est un mot qui a été repris l'autre jour par un type à la télévision, je ne sais plus qui. Il a dit. Ah ben, un critique de télévision. J'étais au Havre il n'y a pas longtemps et on est venu me filmer pendant 4 minutes. Et juste après, pareil, il passait le film Nosferatu le vampire. Alors il parle le critique, il a dit, nous avons vu Ferré qui ressemble à. On aurait dit Nosferatu le vampire. Et puis après, nous avons vu Nosferatu le vampire qui ressemblait à Ferré. Voilà. Eh bien, c'est peut-être un peu vrai aussi. Mais quand je m'accompagnais, j'avais mes mêmes prises, alors je croyais, c'était venu comme ça, inconsciemment, je jouais trop de ma gueule. Et j'arrivais à faire des grimaces abominables.
Catherine Sauvage, il vous a appelé la Grande Catherine. Alors quand on porte ce nom, la Grande Catherine, est-ce que c'est pas dur à porter ou alors astreignant? Expliquez-moi.
Bon, ben, je veux dire que je me lève pas le matin en me disant je suis la Grande Catherine, hein, faut pas exagérer. Et puis vous savez, dans ce métier, les mots, on en dit beaucoup. On m'a appelé la Voix Ferrée aussi. Mais non, Léo, ça a été un compagnon de route pendant fort longtemps parce que je pense que j'ai toujours chanté Léo. Enfin, quand j'ai commencé à chanter, je l'ai rencontré presque tout de suite. Et dès que je l'ai rencontré, j'ai su que c'était mon auteur. Et je crois que tous mes tours de chant ont comporté toujours au moins la moitié de Ferré. Donc, je crois que s'il n'avait pas chanté lui-même, j'aurais pu chanter que du Ferré. Et puis, après 68, 70, par là... Il a pris une nouvelle voie, c'est-à-dire qu'il est devenu beaucoup plus lyrique. Pendant très longtemps, toute l'époque où je l'ai chanté, c'était des chansons extrêmement ramassées. Enfin, ce qu'il y avait, moi, ce que je trouvais d'assez formidable, justement, c'était ce sens du raccourci qu'il avait. C'était des chansons. Et à mon avis, à mon humble avis, ça a été la période la plus intéressante, enfin, de l'écriture de Léo, parce que je pense que c'était surtout ça, sa marque. Après, il s'est mis à écrire des textes qui disaient, d'ailleurs, souvent, et à écrire des choses qui étaient très longues, comme ça, qui duraient 5, 6, 7 minutes, et où ça partait un peu dans tous les sens. Enfin, et je veux dire que moi, j'évoluais pas de la même manière. Donc, je suis restée avec les anciens textes que j'ai continué à chanter parce que je trouve qu'ils prennent pas une ride et qu'ils se portent toujours très bien.
Saint-Germain-des-Prés était à ce moment-là le village, car à 9h30, 10h du soir, il ne passait que quelques voitures. Tout juste, quoi. Enfin, c'était vraiment un endroit très calme. Et avec les vieilles pierres, on s'attendait toujours à voir au détour d'une rue Apollinaire ou Verlaine ou Monsieur Valéry, ou Monsieur Racine, enfin, c'était vraiment un endroit très chouette. Je vais vous raconter une petite histoire, une petite anecdote. Quand je travaillais encore à Saint-Germain-des-Prés, Parce que maintenant, on se plaint, on dit que j'ai oublié les copains de Saint-Germain-des-Prés. Or, je n'y ai jamais eu de copains à Saint-Germain-des-Prés. J'ai oublié la vache enragée à Saint-Germain-des-Prés. Ça, j'y tiens beaucoup. Et un soir, en sortant d'un cabaret, j'ai vu dans le caniveau un noir qui avait sans doute trop bu. Il avait d'ailleurs encore la bouteille à la bouche. Et en rentrant à la maison, j'ai écrit une chanson. Alors je pense que, justement parce que je me trouvais dans ce quartier, que j'ai pu écrire cette chanson qui s'appelle « Dieu est nègre ».
Qu'est-ce que tu penses de ça? Alors en général, il avait un départ qui consistait en une phrase parlée et une phrase musicale. C'était ça le départ, il trouvait un truc. Et puis il avait vraiment une très très grande facilité d'écriture musicale. Et puis le reste aussi, l'écriture écrite aussi. Mais... Et quand il était en forme, il écrivait souvent, je sais pas, 5-6 chansons dans la semaine, comme ça, les bonnes époques. Non, c'était pas du tout quelqu'un qui se remettait à l'ouvrage. C'était pas du tout un bosseur. C'était un type d'instinct. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de points communs avec Trenet de ce côté-là. Enfin, je pense que c'est des gens très, très doués comme ça et qui écrivent d'un seul jet, qui trouvent une mélodie comme ça toute seule et en général, les phrases venaient tout de suite derrière aussi. Non, il allait très vite quand il écrivait. Très, très vite. Ça venait comme ça d'instinct. Quand même, une exception, l'auteur-compositeur à la retraite. Et c'était souvent les interprètes qui faisaient connaître les auteurs à l'époque. C'était les interprètes qui tenaient le haut du pavé, si je puis dire, à cette époque-là.
René Lebas, vous êtes la première interprète de Léo Ferré. Qui a découvert l'autre?
Je l'ai vu pour la première fois dans un cabaret sur les rives gauches qui était tenu par Francis Claude. Et j'étais avec un ami, Eddie Marnay. Et puis j'ai été séduite, c'était en 46, je crois, vous voyez, ça ne nous rajeunit pas. Hein. Et c'est lui qui m'a proposé une chanson qui s'appelle « Elle tourne la terre ». Et l'ABC était tenu par quelqu'un que j'adorais, que j'aimais beaucoup, qui était un grand directeur de music hall, c'était Mitty Goldin. Et Mitty Goldin me dit « Ma chère Renée », avec son accent d'Europe centrale, « Ma chère Renée, voyons ». Vous êtes jeune, vous êtes belle, c'est pas vrai, j'étais pas belle. Vous chantez bien. Pourquoi vous chantez des chansons philosophiques? Alors j'ai ri, naturellement, tout le monde a ri.
Pour moi, un ami, c'est celui sur lequel on n'a jamais d'arrière-pensée. Voilà. Ça. Je dis que vous êtes là, vous restez 2 heures sans parler, vous êtes toujours d'accord. Vous êtes d'accord sur tout. On ne se fait jamais de concessions en disant, mais t'as peut-être raison. Non, on est toujours d'accord sur tout. C'est pour moi le type qui vient me dire j'aime bien ce que tu fais, mais je dis si tu dis mais va-t'en, c'est pas un ami. Même si je fais une connerie, il faut que tu dises que c'est une connerie, mais que tu es d'accord et que tu l'aurais fait en même temps que moi. Là, t'es un ami. Sinon, t'es pas un ami. Ouais, on est tellement seul quand on est artiste, le type vient vous dire c'est très bien, puis on sent venir de loin. Moi, j'en ai vu comme ça, j'en ai connu. Ah, oh, celle-là, j'ai envie de les bouffer. Moi, le type qui est mon ami, c'est celui qui rentre à la maison, qui ne se suit pas les pieds d'abord sur le paillasson, qui vient et puis qui s'installe comme ça, sans en rajouter d'ailleurs, et qui est d'accord avec moi sur tout. Sur tout. Et surtout sur ce que, sur lequel il ne devrait pas être d'accord s'il était lucide. Voilà.
Et personnellement, alors là, bon, pour dire la vérité vraie et franche, c'est vrai que moi, compte tenu de ma jeune génération, je sais bien qu'il y a eu plusieurs générations d'admirateurs de Ferré. Il y a la mienne, qui est celle des années 50, et les chansons que je regrette le plus, ce sont des chansons du tout début. C'est « Quand tout est gris », c'est « Mon petit voyou », c'est « La graine d'ananas », c'est les toutes premières chansons du début. Et parce que j'ai découvert un ami m'a dit « Tiens, voilà, je t'offre un disque ». Et dans ce disque, il y avait toutes les chansons dont je vous parle, et pour moi, ça a été la première rencontre, puis le premier coup de foudre. Évidemment, j'ai suivi, et bien sûr, j'ai été jusqu'au bout. J'ai été voir la chanson du mal-aimé à l'Opéra Comique, mais il est bien évident qu'on a tous plus ou moins son Ferré à soi.
Le 10 mai 68, il y a une chose qui m'a frappé, et ça je le dis parce que j'en suis encore tout ému. J'ai vu dans la rue, boulevard. Là, devant la mutualité, où je devais vous chanter le soir pour la fédération anarchiste, des étudiants et des profs
qui défilait avant la grande nuit, qui a été la grande nuit qui a commencé tout le spectacle 68. Quand je dis spectacle, je veux qu'on entende, c'est-à-dire spectacle pour les gens qui ont regardé ça avec terreur, et le spectacle pour les gens qui le faisaient eux-mêmes et qui étaient en même temps spectacle dans la rue, n'est-ce pas? Et c'était grandiose. Et j'ai vu les profs et les étudiants avec les drapeaux rouges et, pour la première fois, les drapeaux noirs. J'ai trouvé ça extraordinaire. Ça a passé, ça a duré le temps de 68, le temps où il a été nécessaire à tous ces gens d'être les acteurs de 68, mais qui ont laissé derrière eux ce 68 immense et provoquant encore, qui est beaucoup plus important, à mon sens, que 89. Car 68, ça a été la révolte de l'intelligence, et comme disait un copain que j'avais, que je ne vois plus, et qui avait trouvé le sens exact, la révolte collective de l'intelligence. C'est la première fois dans l'histoire du monde qu'il y avait la révolte collective de l'intelligence. 68, c'est important pour tous, pour tout le monde, et pour moi aussi.
Les gens l'avaient nuancé. C'est lui qui disait d'ailleurs, on n'a pas de perspective, on n'a que des familles, que des familles d'idées. Je prenais l'exemple de Souchon, par exemple. Souchon n'a jamais fricoté dans nos milieux. Bon, c'est pas un personnage dépectant, Souchon, mais manifestement, il a été influencé par Ferré. C'est évident. Lavilliers, c'est beaucoup plus net.
Un jour, on dit Léo Ferré, qui se dit anard. Je me suis jamais dit anard. Je suis comme je suis. L'anarchie, c'est l'extrême solitude, donc les gens ne savent pas ce que c'est. Je m'empêche maintenant de chanter une chanson que j'appelais Les Anarchistes, parce que les gens ne savent pas ce que ça veut dire et ça m'énerve, quoi. Moi, je suis un homme libre, un homme seul, un homme de la marge. Je regarde de temps en temps le texte, et des fois le texte, il est de Proust ou de Balzac, et puis des fois il est de... Allez savoir qui, c'est moins bien.
À partir de quand il est devenu poète?
Je crois qu'il l'a été dès qu'il a commencé à chanter. Hein. Je pense que lorsqu'il a commencé à chanter, ça a été dans des cabarets, donc de façon tout à fait confidentielle.
Robert Orville.
Et concernant son œuvre poétique, le grand tournant, c'est la publication de Poète vous papier, qui est un recueil de textes poétiques qui date de 1956 et qui précède ses grands succès populaires comme Paris Canaille, Le piano du pauvre, etc. Et dans ces années 50, il était reconnu comme poète à part entière, si je puis dire, par les poètes de l'époque, et en particulier par les surréalistes. Parce que Benjamin Perret, qui a publié également en 1956 un recueil de poèmes amoureux qu'il a intitulé « L'amour fou », a fait figurer dans ce recueil trois poètes vivants, Breton, Saint-John Perse et Léo Ferré. Enfin, c'est un poème qui figure d'ailleurs dans Poète de vos papiers, qui s'appelle « L'amour », que Benjamin Perret a repris dans cette anthologie de « L'amour fou ». Les succès qu'il a eus dans le domaine de la chanson ont brouillé un petit peu son image, et les poètes ont pris un petit peu du recul par rapport à eux, parce qu'en France, on étiquette les gens, et que l'on considère qu'on ne peut pas être à la fois poète à part entière et auteur de chansons. Et je crois que ça a été un petit peu, pas le drame de Léo, mais tout au moins quelque chose qui a complètement brouillé son image. Quelques années, de nouveau, en particulier dans les milieux universitaires, on a tendance à le considérer comme un poète. Et moi, je pense que c'était vraiment un des grands poètes du siècle. Je le mets tout à fait sur le même plan que Apollinaire, qu'Aragon, qu'Édouard. Son œuvre s'inscrivant dans cette perspective, à la fois quantitativement, parce que je crois que pour vraiment faire une œuvre, il faut avoir écrit suffisamment. Or, l'œuvre de Léo Ferré, c'est plusieurs milliers de pages. Et puis il y a également la dimension qualitative, parce qu'il y a parmi ces textes des textes qui, en effet, sont d'une beauté extraordinaire, qui sont parmi les textes poétiques les plus beaux du siècle.
Où va cet univers dérivé comme un signe? Sur les temps désirés, où nos âmes remorquent toute une exhalaison d'horaires et de signes, il est 5 heures ici, et midi à New York. Nommé sans blague, Christ, tu fuis de ton flanc triste sur ce monde impotent et sur ces potentats qui t'ont étiqueté d'étiquettes touristes. Le plat du jour, c'est Christ. Avec les bras en croix. Et tu crois que je crois? Non, mais crois-tu? L'indigne serait de t'apporter des pansements au flanc, qu'il coule au nom de Dieu ton sang, comme la vigne, et ton cru, qui l'eût cru? On y croira longtemps.
On dit blanc, on sera bien, on sera... Je reviendrai, moi.